Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Parce que ma première réaction, ça a été celle-là. Ça a été de me dire, bon, je cherche tout de suite du boulot, je deviens salarié pour assurer voilà, les revenus nécessaires à l'éducation de mes 5 enfants. Et en fait, il m'a arrêté en me disant, écoute, là, ce que tu m'expliques, c'est que tu as besoin de temps pour être avec eux, du temps pour t'occuper d'eux. Et tu vas partir travailler comme une dingue, ça ressemble à quoi? Donc il m'a conseillé un truc génial, de prélever sur le capital d'essai l'équivalent du salaire de mon mari, et de ne pas me poser de questions pendant un an, de prendre le temps de réfléchir et de me dire que voilà, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comment je voulais, à quoi je voulais que ça ressemble, quel exemple je voulais leur donner, et comment, dans quel environnement je voulais les faire grandir.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Un jeudi sur deux, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue, ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Aliette, bienvenue.
Merci.
Merci beaucoup de venir dans l'histoire de succès, Aliette.
Bah super, bonjour Fabrice.
Bonjour. J'ai trop hâte de faire cet épisode avec toi. Déjà parce que, en fait, donc tu es la cofondatrice de Mumpacap, qui est une boîte dont on va parler tout au long de cet épisode, qui est une boîte qui s'est spécialisée dans le bilan de compétences en ligne, si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe, hein. Et une boîte que tu as fondée avec tes enfants, c'est ça ?
Absolument.
Donc, c'est... histoire familiale.
Exactement.
Avec ton fils et ta fille.
Voilà.
On va en parler. Et merci beaucoup parce que, en fait, vous êtes le sponsor de cet épisode. Merci beaucoup de me soutenir. Merci beaucoup de soutenir Histoire de succès. C'est vraiment, ça me fait un énorme plaisir.
Ici le Fab du montage. Alors, si vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, Mumpacap vous offre un rendez-vous de 30 minutes avec un expert de l'équipe pour discuter de votre projet. Alors, pour cela, il suffit tout simplement d'aller dans le lien dans la description de cet épisode et de prendre un rendez-vous. Je vous souhaite une belle écoute avec Aliette.
Et j'ai d'abord découvert ton fiston, Yves, avec qui on a bossé, je crois, l'année passée. Et de faire cet épisode avec toi, il m'a expliqué que « Mais ma mère, elle a une histoire incroyable à te raconter !» Et c'est trop marrant qu'il se dise « C'est trop bien d'envoyer maman au feu, quoi, tu vois, pour aller venir raconter son histoire, etc. » J'ai vraiment très hâte de découvrir un petit peu plus... qui se cache derrière Mumpacap et surtout ton histoire. Donc merci beaucoup. Je mettrai un lien pour tous les gens qui le souhaitent s'intéresser à Mumpacap. On va en discuter, mais globalement, vous avez fait en sorte de rendre le bilan de compétences accessible, si je me trompe pas.
Oui,
c'est un peu la mission, c'est ça?
Exactement, c'est absolument la première idée. Ça a été la première surprise aussi, parce que je te cache pas que lorsque Yves m'a proposé de créer cette entreprise, à la fois j'étais pas surprise par le projet entrepreneurial qu'il pouvait avoir, parce que je m'attendais à ce que ça arrive un jour. Par contre, j'étais complètement sidérée par l'idée qu'il a proposée, en me disant, écoute, voilà, ce que tu fais depuis 20 ans, ce que tu as toujours fait, du bilan de compétences, de l'accompagnement, je te propose qu'on fasse la même chose, mais en digital, en ligne, et qu'on modernise un petit peu le schéma. Et sur le coup, je dois avouer que c'était à la fois une énorme surprise, et puis je visualisais pas encore très bien en 2018 à quoi ça allait pouvoir ressembler, et si ça allait pouvoir fonctionner, et puis si c'était assez interactif pour que ça me plaise. Ouais. Dans la relation avec les personnes qu'on accompagne en bilan de compétences.
Oui, parce qu'on va en parler, mais avant ça, tu faisais des bilans de compétences, mais en tête à tête avec les gens et de visu, etc.
C'est exactement ça. Et tu as raison, le premier sujet qui m'a séduite dans cette idée, c'est de me dire tout de suite, ok, ça va être super, ça va être beaucoup plus accessible pour un plus grand nombre de gens. Et ça va leur permettre, voilà, de chez eux, à des horaires qui leur conviennent, de s'engager dans des bilans de compétences facilement. Et si en plus on peut créer une relation qui soit sympa, y compris en ligne, ça m'allait bien, quoi.
Et avant de parler de toi et de ton histoire, pour les gens qui n'ont pas idée de ce que peut être un bilan de compétences et de ce que ça peut leur apporter, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ?
Alors, j'ai envie de leur dire que c'est d'abord une méthodologie et que souvent les questions qu'on se pose pendant un bilan de compétences, on se les est posées tout seul quand on a des problématiques professionnelles. En tout cas, c'est un dispositif qui répond bien à toutes les questions qu'on peut avoir quand on a des questionnements sur son évolution professionnelle, sur un mal-être éventuel ou un manque d'alignement avec ce qu'on fait ou un manque de sens ou au contraire une souffrance dans certains cas. Donc la méthode du bilan, elle répond effectivement à ça et j'ai envie de leur dire que c'est d'abord beaucoup plus sympa et plus chouette de le vivre à deux plutôt que de se questionner tout seul dans son coin et que ça tourne en boucle le jour et la nuit.
Oui, puis vous venez avec une vraie méthode aussi, c'est pas complètement à droite à gauche comme on peut avoir des questionnements quand on est dans ce genre prise de tête, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est ce que voilà, la méthode du bilan, elle est ce qu'elle est, mais elle a fait ses preuves, elle existe depuis plus de 20 ans et clairement elle apporte en fait le fait de poser les sujets qui concernent la vie professionnelle les uns après les autres et d'y voir clair sur chacun des points. Donc cette méthode, elle nous invite à se questionner sur quel est notre projet de vie, quel est véritablement ce qu'on a envie de réaliser, comment on a envie de s'accomplir, quel est, pour certains, ça peut leur parler, quelle est leur mission de vie. Donc ce sont vraiment des sujets sur lesquels on revient dès le début, puis après se questionner sur sa personnalité, identifier clairement ses forces, parce qu'on a beaucoup tendance à entendre parler de nos défauts. Mais puis la vie nous les rappelle trop souvent.
Oui,
mais...
puis l'entreprise a plutôt tendance à focaliser sur les défauts plutôt que le monde de l'entreprise d'une manière générale, quoi.
Clairement. Donc là, c'est au contraire l'occasion de mettre le doigt sur ses forces, sur ses talents, sur ses qualités et de savoir comment on a envie de justement tout ce qui est finalement plus simple pour nous, plus naturel aussi pour nous, comment on pourrait l'investir dans un projet professionnel qui nous permettrait de continuer à grandir, de continuer à nous développer. Donc on fait aussi le point bien sûr sur les compétences des gens, sur ce qu'ils ont déjà réalisé, déjà fait, et comment ils aiment le faire ou pas, ou s'ils en ont fait le tour aussi et qu'ils se sont lassés, parce qu'il y a des compétences... dont on peut à un moment donné se dire que bon, voilà, ça suffit.
C'était bien.
Exactement, c'était bien un temps, mais on a envie d'apprendre d'autres choses. Et puis voilà, puis après, il y a toute cette phase aussi de construction du projet où on va aller vraiment questionner la réalité, rencontrer des professionnels, parce que nous, dans notre relation d'accompagnement, les métiers des gens qu'on accompagne, on les a rarement exercés. Hein, donc, on ne peut pas prétendre avoir des solutions ou des réponses. Par contre, on sait les mettre en contact avec des professionnels sur ces sujets-là qui vont, eux, leur donner la visibilité dont on a besoin pour faire ses choix, pour prendre ses décisions et après surtout pour pouvoir se mettre en mouvement. Parce qu'il y a aussi, je crois chez Mempacap, un bilan de compétences qui travaille aussi sur la mise en action de ce qu'on a construit. Moi, je n'ai pas de sentiment de réussite avec quelqu'un si je ne vois pas l'occasion de voir le projet se concrétiser et qu'on puisse boire un coup pour fêter cette étape nouvelle. Quoi.
Ok, donc ça, tu les accompagnes vraiment du début jusque, pas à la fin, mais en tout cas au début du commencement, c'est ça?
Jusqu'à ce qu'on fête, exactement.
Jusqu'à ce qu'on fête.
Moi, c'est vraiment le moment où j'ai l'impression qu'on a réussi quelque chose. Mmh. C'est quand eux célèbrent leur entrée dans une formation, si c'est le cas, ou leur la signature d'un nouveau contrat de travail s'ils cherchaient du boulot, ou la création de leur boîte si c'est ça le projet. Et que
le premier pas, en tout cas.
Exactement.
C'est ça.
Ce premier pas, c'est vraiment
qui
le moment.
Qui est vraiment super dur à faire, en plus, hein, dans plein de cas. Hein.
Clairement, c'est souvent ce moment de... Voilà, de
saut dans le vide.
Oui, voilà. Pour lequel il est précieux d'être deux, enfin, de se sentir accompagné. Et au-delà de ses proches, ou au-delà de son cercle amical, avoir travaillé sur tous ces sujets-là avec des professionnels, je pense que c'est vraiment un grand moment.
Oui. Et je crois qu'il ne faut pas... en tout cas, moi, les coachings que j'ai pu faire, j'ai retrouvé dans le regard de ma coach ou de mon coach une vraie validation de ce que j'avais envie de dire. Et c'est tellement précieux. Mais je crois que, un peu comme quand tu vas voir un psy ou une psy, tu as souvent le regard qui fait vraiment... Le regard est globalement le regard que la personne te pose dessus qui fait une grosse partie finalement.
Oui,
je sens ça chez toi en fait. On s'est jamais rencontrés, mais...
Écoute, je
sens vraiment ce truc de bienveillance. Ouais.
Chez toi. C'est clairement naturel. Je crois que j'aurais pu faire plein d'autres métiers. Hein. J'aurais peut-être le temps encore d'en exercer d'autres. Ouais. Mais en tout cas, ça, je sais que c'était effectivement dans ma nature et dans.
Ah, tu es convaincu que c'est dans ta nature. C'est pas un truc que t'as entre guillemets fait grandir avec le temps et.
Alors ça s'est développé aussi avec les opportunités multiples d'exercer ce métier. Mmh. Tu vois, d'accompagnement, de relation d'aide, de coaching, mais clairement, moi, j'étais très heureuse de faire déjà la campagne électorale de mes copines pour qu'elles soient déléguées de classe, quoi. La réussite des autres.
Ah yes.
Ça a toujours été ce qui
plus que toi.
Oui, okay. Carrément. Mm. C'était ce qui me rendait la plus heureuse.
Ok.
De faire réussir l'autre, et ça continue à être. Et puis je pense aussi que j'ai tout mis en œuvre pour faire réussir mes enfants. Ça a aussi été...
Pour en parler.
Ouais, ouais.
C'est d'ailleurs incroyable qu'effectivement Yves revienne vers toi pour avoir envie de faire ça. Ça prouve un lien qui est quand même très particulier, quoi.
Oui, alors je pense que c'est notre histoire aussi qui explique ce lien et la maturité aussi des enfants et puis cette histoire particulière qui nous a liés et qui fait qu'on a cette facilité à aujourd'hui aussi pouvoir travailler ensemble.
Mmh. Aliette, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alors, à 7-8 ans, je ressemblais à un garçon manqué. J'aimais sauter des arbres le plus haut possible, bien sûr.
Terrible d'ailleurs, cette expression garçon manqué pour les filles qui sont un peu...
Absolument.
Punchy, quoi,
oui.
Tu vois, c'est vraiment...
Oui, c'est
tu
vrai.
N'es pas une vraie fille, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça rappelle déjà le 20e siècle. Hein.
Ouais.
mais effectivement, je vivais à cette époque-là en bottes, dehors, et si je pouvais être au centre équestre, c'était mon bonheur.
Ah, des chevaux.
Voilà. L'équitation et monter à cheval, c'était l'univers dans lequel je me sentais bien.
Okay.
Je me voyais bien devenir jockey à l'époque.
Okay.
J'avais la taille qu'il fallait et puis commencer à dessiner un chemin d'un métier qui n'était pas a priori fait pour les filles, ça m'allait bien.
Un peu rebelle.
Ouais. Tout à fait.
Déjà à l'époque. Comment ça se... cristalliser, tu penses, cette rébellion? Alors, j'entends bien le truc d'aller tracer ta voie et que t'en avais rien à foutre, que c'était pour les filles ou pas pour les filles, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses dans ta jeunesse?
d'autres choses.
Qui cristallisait ce côté rebelle.
Ah oui, bon, ça a toujours été, oui, je pense. Ça,
complètement alors, ma vie, quoi.
Ouais, je comprends que ça s'est manifesté. Je pense que c'est, oui, c'est mon histoire. J'étais la seule fille au milieu de trois garçons. Il y avait, voilà, il fallait, pour faire sa place, il fallait jouer les coudes un petit peu, quoi. Donc, je pense que ça s'est...
Ta mère, elle t'encourageait dans ce chemin-là?
Ah, complètement. Complètement, parce qu'elle était à la fois un exemple, à l'époque déjà, d'une femme qui travaillait. Et j'ai encore un souvenir ému de la voir m'emmener avec elle pour aller ouvrir son premier compte bancaire, en me disant « Viens voir ma fille. »
Waouh.
Parce qu'enfin, mon salaire va pouvoir arriver sur mon compte à moi, oui, et pas sur celui de mon mari.
Rappelons que pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, attends, ça date de quand? C'était les années 60, c'est ça?
Les années 70, même.
60, waouh, la vache.
Oui, il a fallu attendre les années 70 pour qu'une femme puisse toucher son salaire elle-même sur son propre compte
propre
et ouvrir
compte
son compte pour toucher son salaire. Donc ça paraît surréaliste aujourd'hui. Mais je me souviens qu'elle m'a pris la main ce matin-là en me disant « Allez, viens avec moi, je vais te montrer, c'est important et quand tu seras grande, tu pourras aussi gagner ta vie. » quoi.
Incroyable.
Donc pour elle, oui, je crois que j'ai hérité de ce côté à la fois rebelle et de cette indépendance aussi de femme pour tracer sa route.
Ok. comment t'étais à l'école?
À l'école, bon, j'étais super heureuse avec mes amis. Mmh. C'était ça qui me motivait. Ça a navigué tranquillement, sans faire beaucoup d'efforts. Et encore une fois...
Ça t'intéressait pas trop?
Bon, ce qui me motivait le plus, c'était les temps que je passais au centre équestre. Et voilà, j'ai plus travaillé mes degrés d'équitation et voilà, que comment dire, que les matières scolaires.
Tu continues à monter aujourd'hui?
Non, j'ai arrêté, j'ai remplacé cette addiction-là par une autre addiction sportive.
Laquelle?
Ouais, je joue au golf maintenant. Okay. Donc, être dehors, c'est toujours important. Okay. Mais maintenant, je marche.
Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté les chevaux? Parce que pour connaître quelques personnes qui sont à fond dans les chevaux, c'est un vrai lien. Hein.
Oui, c'est une déception amoureuse avec un cheval. Parce que je l'entraînais. Et puis, son propriétaire, un jour, sachant que j'élevais seule mes cinq enfants, à la veille d'un concours épique, m'a demandé de pas aller concourir parce qu'il avait trop peur que je me fasse mal et de laisser cinq orphelin définitivement, tout seul dans la vie. Et du coup, cette peur pour moi, cette déception de ne pas avoir pu faire ce concours, voilà, m'a invité à lâcher, enfin à renoncer. Ouais. Et puis, j'ai aussi eu la chance de découvrir un autre sport qui m'emballe aujourd'hui. Donc,
le golf, t'es à fond?
Complètement. Complètement.
Comment t'es tombée dans le golf?
C'est une histoire. Alors ça, pour le coup, c'est une histoire aussi de famille, parce que mon grand-père joue au golf, parce que tout, voilà, dans ma famille, beaucoup de gens jouent au golf. Donc moi, j'ai commencé, j'avais 6-7 ans à être caddie pour suivre voilà, les uns ou les autres. Et donc, assez naturellement, quand j'ai voulu choisir un autre sport qui pouvait qu'être à l'extérieur, parce que c'était une priorité, c'est une idée qui m'a paru assez naturelle.
Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu as fait comme études?
Alors, j'ai fait des études d'histoire, plus par goût pour la culture générale, sans avoir forcément en tête une idée de métier. Je ne savais pas trop à quoi ça allait me mener. Ça m'a conduit finalement à enseigner. Et ça, c'était plutôt une chouette époque, une belle expérience.
T'étais au collège,
alors,
lycée?
J'ai enseigné et au collège et au lycée, parce que j'enseignais dans l'enseignement privé.
Okay.
Et du coup, j'ai eu la chance d'accompagner à peu près toutes les classes d'âge et des classes d'examen beaucoup. Et puis, autant la relation avec les élèves est un moment assez chouette, autant l'environnement... Enfin, moi, j'avais l'impression de ne pas être dans la vraie vie, de vivre dans un espèce de milieu un peu clos, un peu fermé. Et j'avais envie de rejoindre le monde de l'entreprise. Pour moi, c'était ça. Okay.
C'était le milieu de l'enseignement privé qui faisait ça, ou c'était d'une manière générale l'école?
Non, c'était l'école en général. Okay. Je pense que ce qui était le plus compliqué, c'était la correction des copies, qui reste quand même un exercice long et pas marrant. Et la salle des profs, qui est également un milieu très, un endroit très sclérosé, quoi. Donc, enfin, dans lequel moi, je m'épanouissais pas. Donc, assez rapidement, j'ai cherché à évoluer vers autre chose. Et puis, il y avait aussi un autre sujet, c'est que j'avais rencontré donc mon mari à la fac d'histoire. Qu'on était tous les deux profs, et quand on a commencé à avoir des enfants, je me suis dit, oh là là, les pauvres. Avoir deux parents profs, ça va peut-être être beaucoup pour eux. Donc il faut qu'il y en ait un de nous deux qui aille vers un autre monde.
Ok.
Et comme Pierre commençait à prendre des responsabilités, à diriger des écoles, que sa carrière avait l'air de se dessiner pour lui favorablement et qu'il était très heureux là, moi je me suis dit, bon, ben, je vais aller faire mon chemin ailleurs pour équilibrer un petit peu... l'environnement dans lequel ils vont grandir.
Ok. J'avais l'impression que tu t'épanouissais pas des masses non plus, quoi.
Oh, c'était, oui, c'était... Voilà, sans plus.
C'est dur de sortir de l'éducation nationale, non ?
Écoute, non, ça a été... Non, ça a été... Enfin, c'était un choix, donc ça s'est fait assez facilement. Après, c'est vrai que le fait d'avoir eu 5 enfants, j'ai passé quand même quelques années à alterner des congés maternité avec des temps de travail. Mmh. Et du coup, ça m'a laissé aussi l'occasion, l'opportunité de rencontrer des gens et de faire des choix différents.
De gamberger un peu. Voilà. Enfin, d'avoir le temps. T'as fait un bilan de compétences à l'époque ou pas ?
Alors, ouais, j'ai fait. Alors, c'était pas le bilan, il n'existait pas tout à fait encore, mais en tout cas, j'ai été accompagnée par des amis DRH qui, effectivement, m'ont questionnée et m'ont permis de construire pas à pas l'idée que j'avais très envie d'entreprendre, en fait.
Ok. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat alors, c'est
absolument,
ça, à ce moment-là ?
Absolument, exactement. Donc okay. J'ai profité de ces temps un peu de pause pendant les congés mat pour justement peaufiner mon projet, créer ma première entreprise, donc, qui était d'ailleurs une association à l'époque.
Ok.
J'ai créé ma première association parce que c'était plus politiquement correct pour une femme.
C'est ce que j'allais te dire.
Voilà. C'était plus acceptable d'avoir un projet associatif. Et puis après, dans la continuité de cette première association, j'ai créé ma première entreprise, etc.
Il y avait, t'avais une forme de peur aussi de te lancer directement dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'il faut replacer aussi dans le contexte. Je sais pas quand est-ce que c'était, mais c'était pas. Aujourd'hui, c'est devenu simple entre guillemets de monter une boîte. À l'époque, c'était compliqué, quoi. C'était un vrai chemin, quoi.
Ah, c'était un chemin. Et puis, je te dis, c'était pas forcément l'endroit où on attendait une femme, surtout. Et une femme, une mère de famille, dans mon environnement, en tout cas, moi, pour mes parents, clairement, ça a toujours été évident et naturel que mes 3 frères soient chefs d'entreprise.
Ah, okay.
Mais que moi, je le devienne, ça a été toujours une incongruité. C'était insolite et ils ont mis des années à le réaliser, je pense.
Et à te prendre au sérieux ?
Et à me prendre au sérieux, complètement.
Parce qu'avant ça, c'était un peu pour faire mumuse, c'est ça ?
C'était exactement. C'était, ça l'occupait, mais le plus important était la place que je pouvais occuper dans ma famille.
En tant que maman.
Exactement, en tant que mère, en tant que femme, voilà. Donc,
Waouh.
Donc c'était un choix qui déjà était...
Et ça a été facile pour toi de tracer justement ton chemin malgré, comment dire, pas le désaccord, mais en tout cas peut-être un œil un peu réprobateur de tes parents, quoi.
Alors je crois que c'était pas, je l'ai pas évalué en termes de facilité ou de difficulté, je pense que c'était vital parce que je me suis à un moment donné rendu compte que toute l'énergie que je pouvais avoir en fait se retournait globalement contre moi dans ma vie de salarié et dans ma vie dans l'entreprise, et que cette énergie là si je la mettais au service d'un projet autre et extérieur qui pouvait être la création d'une entreprise, et ben que j'allais me battre pour des vrais bons sujets plutôt que de vouloir mettre de la compétition à peu près dans toutes mes relations et avec tout le monde.
Tu faisais ça ?
Oui.
C'est hyper malin. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un m'en parle. Tu sais, j'ai fait 150 épisodes là, de venir mettre de l'énergie dans un truc plutôt que contre les gens qui t'entourent, parce que tu as besoin à un moment donné qu'elles sortent, quoi.
Ah ben, clairement, moi ça m'a apaisé en fait de créer une entreprise. Ça m'a aligné, ça m'a apaisé et ça m'a permis de mettre mon énergie au bon endroit et pour les bonnes motivations, pour les bonnes raisons. Mmh. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas quitté d'ailleurs ce métier-là depuis.
C'était déjà, tu faisais déjà des bilans de, tu t'es lancé tout de suite dans les bilans de compétences, c'est ça à l'époque ?
Alors en fait, non, quand j'ai quitté l'enseignement, j'ai rejoint d'abord un cabinet de recrutement où j'ai fait une petite dizaine d'années du recrutement, donc avec une activité plutôt commerciale et de recherche et voilà. Et puis en 94, quand le bilan de compétences est apparu, moi, il m'a paru tout à fait plus simple d'accompagner les gens plutôt que de les sélectionner. Donc, je me suis lancée dans l'accompagnement au bilan de compétences à ce moment-là. Je l'ai fait pendant quelques années au sein de cabinets différents. Et puis, l'univers du cabinet de recrutement ne me convenait pas forcément. Donc, j'ai choisi de créer ma propre entreprise dès 2001 pour
donc
faire ça.
Pendant, on va dire que pendant 10-15 ans, tu as quand même eu une période de transition de salarié, c'est ça ?
Tout à fait.
Ok. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Ok, maintenant il faut que je me lance dans mon propre truc. »
Clairement, en parallèle.
C'est la découverte du bilan de compétences qui t'a fait dire « Ok, c'est vraiment un vrai truc que j'ai envie de faire et que j'ai envie de faire pour moi et pour les autres ?»
Alors en fait, je ne l'avais pas à l'époque. C'était 2001, 2002. Ça n'a pas été le choix du bilan de compétences. Je n'étais pas certaine que d'abord on allait pouvoir vivre que du bilan de compétences quand j'ai créé ma première... mon premier cabinet, donc je pensais qu'il faudrait peut-être continuer à faire du recrutement à côté, etc. C'était un pari, en fait. Ce que je sentais, c'était que, j'étais en désaccord avec la directrice du cabinet dans lequel j'étais, et que cette énergie-là me poussait à faire différemment. Donc, assez naturellement, j'ai créé spontanément, en fait. Et puis, finalement, ça a été une création qui a été mise en stand-by dès le départ. Puisque la même année où j'ai créé mon premier cabinet, c'est l'année où Pierre est décédé. Et donc, du coup, j'ai accordé un an à vraiment me consacrer aux enfants, à la famille, à notre équilibre et à la gestion de toutes les émotions qu'on pouvait traverser à ce moment-là.
Les enfants avaient quel âge ?
Les enfants avaient entre 5 et 15 ans.
C'est jeune.
Un peu trop jeune, ouais. Pour perdre son papa, effectivement.
Ouais. Et tu disais tout à l'heure que le fait qu'Yves soit venu te voir pour venir monter Mumpa Cap fait partie de votre histoire. J'ai l'impression que ce décès et tout ce qui s'est passé après dans votre relation a forgé quelque chose au sein de votre famille. Quoi.
Oui, je crois que j'avais la chance d'avoir 5 enfants. C'était notre projet à tous les deux. Moi, j'en étais super heureuse. Et je crois que la chance qu'on a eue, c'est qu'ils soient finalement aussi nombreux. Parce qu'on s'est beaucoup soutenus quand il y en avait l'un d'entre nous qui n'allait pas fort. Il y avait toujours le groupe et cette cellule familiale un peu bancale, mais qui finalement a été très soudée et a fait face. Et puis surtout, je pense que ce que j'en retiens, au-delà du chagrin et de la difficulté, de l'épreuve, c'est que finalement, moi, je me suis rendu compte que la vie, elle pouvait s'arrêter vite et tôt, et que du coup, il y avait finalement pas grand-chose de plus grave que ça. Et donc, que beaucoup de choses étaient finalement possibles et qu'il fallait en profiter et les saisir au moment où elles se présentaient.
Tu veux dire, il n'y avait pas grand-chose de plus grave que la mort ?
Oui.
C'est ça ? Ouais. Oui, je comprends. Et effectivement, la meilleure façon d'appréhender la mort, je trouve, c'est de vivre sa vie à fond.
Carrément. C'est exactement ce que j'en ai retenu. C'est de se dire, ok, maître de la vie, être le plus vivant possible, au présent, à tous les instants. Et puis transmettre ça aux enfants qui, eux,
Comment tu l'as transmis déjà en le vivant toi, c'est ça ?
Ben exactement, en essayant d'être la plus vivante possible moi, c'est-à-dire en renonçant pas à ce projet d'entreprendre que j'avais initié. Donc je me suis donné effectivement une année de pause. Et puis ensuite, la rentrée scolaire suivante, quand j'ai eu l'impression que on avait pris ce temps d'équilibre. Je me suis lancée dans cette aventure, tout en gardant pendant une dizaine d'années, mon projet, c'était de travailler de 9h à 16h pour être là à 4h30, puisqu'ils n'avaient plus que moi, il fallait que je sois plutôt présente.
Et puis, entre 5 et 15, le petit, la petite, je ne sais pas.
Ouais, c'est un garçon, ouais.
5 ans, c'est petit, quoi.
Ah ben, clairement. Donc,
il faut s'en occuper, quoi.
C'est ça. Il y avait encore encore des années à vivre et je voulais qu'elles soient pour eux les plus belles et les plus heureuses et les plus vivantes possibles. Donc, je pense que c'est aussi ça qui nous a rassemblés, soudés.
C'est tout de même incroyable que tu te sois lancé dans ce projet, même si j'entends bien que tu as attendu un an et tout, mais je crois qu'il y a plein de gens qui se seraient dit « Ok, je vais aller chercher un job salarié, une forme de sécurité entre guillemets, parce que bah, maintenant j'ai 5 enfants à charge à faire en sorte de, qu'il faut nourrir en fait toute seule. » Mais non, tu as décidé quand même de te lancer dans ton aventure entrepreneuriale, quoi.
Alors écoute, ça a été effectivement, ça a été ma première réflexion. Et je dois à un de mes amis à l'époque de m'avoir ouvert les yeux. Parce que ma première réaction, ça a été celle-là. Ça a été de me dire, bon, je cherche tout de suite du boulot, je deviens salarié pour assurer voilà, les revenus nécessaires à l'éducation de mes 5 enfants. Et en fait, il m'a arrêté en me disant, écoute, là, ce que tu m'expliques, c'est que tu as besoin de temps pour être avec eux, du temps pour t'occuper d'eux. Et tu vas partir travailler comme une dingue, ça ressemble à quoi ? Donc il m'a conseillé un truc génial, de prélever sur le capital d'essai l'équivalent du salaire de mon mari et de ne pas me poser de questions pendant un an, de prendre le temps de réfléchir et de me dire que voilà, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comment je voulais, à quoi je voulais que ça ressemble, quel exemple je voulais leur donner et comment, dans quel environnement je voulais les faire grandir. Et effectivement, ce temps-là, il a été extraordinaire parce que effectivement, je suis revenue à ma nature qui était de vouloir entreprendre en me disant bon, on va tenter. Et puis j'ai eu surtout à l'époque la chance de, dans cette année-là, de signer un partenariat avec l'ANPE, ça ne nous rajeunit pas.
Oui. L'ancêtre de Pôle emploi.
C'est ça. Et France Travail, même maintenant.
Oh là là.
Tu vois, ils ont eu le temps de changer deux fois de nom. Non, mais du coup, ce partenariat sur 3 ans a fait pour déjà faire du bilan de compétences pour des demandeurs d'emploi. Ça a sécurisé, en fait, le projet de la création de l'entreprise. Et ça m'a permis de me dire allez, ok, go, j'y vais. Et puis, on verra bien. C'était plus simple, finalement, comme ça, que de trouver un patron qui allait accepter que je voulais travailler de 9h à 16h et que je voulais la moitié des vacances scolaires et que, etc.
Ouais.
Donc finalement, c'était...
Tu t'es créé ta propre vie finalement.
La bonne réponse, exactement.
C'est incroyable parce que c'est un super... Tu sais, donc j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent. Et c'est vrai que ce conseil est incroyable parce que j'imagine à quel point tu te dis, ok, donc là, il y a de l'argent qui rentre... je vais en avoir besoin, il faut que je le garde, il faut que je m'assoie dessus et faire en sorte d'être assis sur mon petit ador et de finalement ne rien en faire d'autre que de te dire, bon bah maintenant il faut que je trouve d'autres solutions. C'est un super conseil de venir dire, en fait, à cet argent-là, prends-le et en fait utilise-le entre guillemets pour prendre le temps, quoi. C'est génial.
Et ça a été vraiment, ouais, si j'avais pas eu ce conseil-là, je pense que ma vie aurait été différente. Et je me souviens aussi qu'il ait dit, bah écoute, fais ton calcul, mais divisé en 5 de toute façon ce que tu voulais garder là de côté pour les études de tes enfants. Il me dit, tu sais, avec si tu divises par 5 la somme, franchement, ça va rien changer à leur vie à l'arrivée. Donc par contre, que tu sois là pendant un an, ça va tout changer dans leur équilibre pour la suite.
Et puis pour toi surtout.
Et pour moi.
En commençant par toi, je trouve.
Complètement. Complètement. Ouais, ouais, ça a été...
N'oublions pas le masque d'oxygène, tu vois, dans l'avion. Il faut d'abord que tu le prennes, toi, quoi.
Ok.
Ouais,
c'est vrai.
Et donc, en fait, tu te lances dans cette boîte avec vraiment l'idée de faire du bilan de compétences. Alors, c'est le moment où, et grâce à donc, la NPE à l'époque, qui te file un peu le pied à l'étrier, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, pendant, encore aujourd'hui, jusqu'à... Ça va s'arrêter là, parce que, effectivement, je vais fermer, je vais clôturer cette aventure-là cette année. Mais voilà, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que j'ai créé. Et on a vécu essentiellement de l'activité du bilan de compétences et de l'accompagnement. Donc, avec beaucoup de bonheur, sur un territoire relativement local, autour de Chantilly. Et vraiment, oui, c'est une belle aventure et de belles rencontres.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, tu vois, tu parlais tout à l'heure de passer de l'enseignement au recrutement. Déjà, pourquoi t'as eu envie de passer de l'enseignement au recrutement et après, pourquoi du recrutement à l'accompagnement dans le bilan de compétences ?
Ben, je crois que ce qui m'a guidée, c'est vraiment toujours cette quête de voir l'autre réussir. Et je trouvais que le format Alors le format collectif avec l'enseignement, ça permet de effectivement d'accompagner un groupe, mais j'aime bien l'idée d'accompagner aussi des individus, de faire un peu, tu vois, de quelque chose sur mesure qui coïncide avec les valeurs, avec les choix de vie, avec les ambitions de chacun. Et on a tous des ambitions différentes et des projets différents. Et plus j'ai pu me rapprocher de cette possibilité d'accompagner l'autre dans sa réussite, c'est ça qui m'a guidée.
Ok. Voilà. Pour reparler du bilan de compétences, qu'est-ce qui t'a séduit quand tu découvres cette méthode ?
Alors déjà, la méthode elle-même, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une organisation des séances, des rendez-vous, et puis surtout, ben, en la testant, je me suis rendu compte qu'elle était efficace, quoi. Et moi, ça me va bien d'être opérationnel et efficace, j'aime bien. Donc, que chacun puisse, à partir d'une méthode commune, chacun peut se l'approprier et y faire son chemin et trouver sa réussite. Et puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi qui était adapté en termes de rythme. C'est-à-dire que un bilan de compétences, ça construit un projet pour les 5 prochaines années. Mais dans 5 ans, on peut avoir changé et avoir d'autres envies, d'autres projets. Et du coup, pouvoir réinventer quelque chose et retrouver cette méthode pour mener une réflexion, en fait.
Ok. Est-ce que tu as la sensation d'avoir fait évoluer, finalement, ton approche, toi, de la méthode ? Parce que là, ça va faire 20 ans, c'est ça que tu fais ça ? Enfin, même plus de 20 ans. J'imagine à quel point 20 ans de pratique t'ont fait grandir aussi par rapport à ça.
Ah ben clairement. Clairement, j'ai l'impression qu'on est passé, tu vois, de un peu à l'image de... On est passé de la NPE à France Travail. J'ai l'impression que le bilan, il a aussi gagné déjà dans les outils. Donc, au passage, est arrivé de façon de plus en plus... évidente en France, tous les outils du coaching. Donc moi, au passage, je me suis reformée, je suis allée refaire un master en coaching également à ce moment-là. Et donc, des outils nouveaux, des évolutions aussi sur la psychologie, sur la systémie, et qui font que la méthode est restée. Les outils se sont beaucoup modernisés. On a, en tout cas, moi, ce que j'ai transmis et ce qu'on a utilisé quand Yves a créé MEMPACAP, c'est en fait le fruit d'une méthode et d'outils que j'avais pu développer en présentiel, mais qu'il a encore, fait évoluer en les digitalisant d'abord et en les modernisant, en y ajoutant plein de clins d'œil, plein de liens, beaucoup d'humour. C'est encore une... J'ai l'impression qu'on a réinventé ce que je pouvais faire depuis 20 ans, on l'a réinventé encore de façon nouvelle.
Avec ton fils.
Avec mon fils, c'est génial.
Raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Donc c'est en 2018, c'est ça ? Peut-être un peu avant, c'est ça, où Yves vient de voir. Qu'est-ce qu'il faisait lui avant, de son côté ?
Alors Yves, il vient du monde du e-commerce. Okay. Il a fait une école de commerce et puis il a travaillé dans l'univers de la logistique, dans différentes startups. Et en 2018, effectivement, il se questionnait, il avait des doutes. Il a eu envie lui-même de faire un bilan de compétences. Donc, il m'a posé la question. Je l'ai expédié loin de moi, mais chez une amie de confiance.
Comme les enfants de psy, tu sais.
Exactement.
Va là-bas.
Tout à fait. Et donc, il a lui-même mené ce bilan. Alors, c'était un vrai sport parce qu'il vivait à Paris et qu'il est allé faire son bilan de compétences à Compiègne quand même. Donc, pour aller faire les séances, pour aller faire les rendez-vous, il avait à chaque fois une heure de route. Mais je crois que la méthode lui a permis d'identifier qu'il avait le souhait d'avoir un projet qui avait une dimension sociale plus importante que ce qu'il avait comme job jusque-là. Et puis, au terme de son bilan, il est venu me voir dans mon bureau en me disant « Écoute, j'ai une idée, je voudrais créer une entreprise. » Bon, jusque-là, pas de surprise pour moi. Par contre, quand il m'a dit « On va faire ce que tu as toujours fait, mais en digital. » D'abord, je suis tombée de ma chaise, quoi, parce que je m'attendais à beaucoup de choses. Il avait déjà eu plusieurs idées, plusieurs projets qui n'étaient pas du tout dans cet univers-là. Et donc, voilà, ça a été la surprise.
T'as d'abord dit non merci, parce que c'est, enfin, j'imagine à quel point c'est pas forcément très simple de te lancer dans une boîte avec ton fils. Il y a ta fille aussi qui va vous rejoindre après, c'est ça ou
Quasiment la même année.
Ouais, 16.
Voilà, donc 16, effectivement. En fait, la première réaction, ça a été... moi, je voyais l'histoire avec un outil de visio où ça crachouillait et où on ne s'entendait pas, où ce n'était pas interactif. Donc, je lui ai demandé vraiment, je lui ai dit, écoute, si on se lance là-dedans... parce que sa question, ça a été de me dire, écoute, moi, je ne peux pas m'embarquer dans ce projet si tu ne m'accompagnes pas, ouais. Parce que l'expertise du bilan, je ne l'ai pas.
Mais donc, tu voyais plutôt des contraintes techniques plus que le fait de te lancer dans une boîte avec ton fiston.
Ah
ça,
il
n'y avait pas de problème.
Et
c'est intéressant. Hein, c'est...
Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'on a toujours vécu ensemble et il y a toujours eu dans la famille une certaine liberté de ton, ça étonne aujourd'hui encore chez Même Pas Cap, mais moi j'ai toujours accepté que les enfants puissent exprimer leur désaccord. Après on en parle, on restera peut-être pas d'accord pendant longtemps, mais peu importe.
Ouais.
L'important c'est que chacun puisse dire comment il voit le monde. Et donc non, ça, le fait de... je savais pas du tout où ça allait m'embarquer. Moi, j'avais quand même ma boîte aussi à piloter. Donc, au début, l'idée, ça a été plutôt de lui donner un coup de main à créer la sienne. Donc, ça me paraissait, simple, facile, naturel. Je m'attendais pas à ce que ça me prenne tout le temps et que ça devienne mon activité principale et avec grand bonheur aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de chance aussi que Yves a ce talent de réussir à confier à chacun ce pourquoi il a une excellence. Donc moi, il me confie aujourd'hui chez Même Pas Cap ce qui m'amuse le plus de faire.
Qu'est-ce qui t'amuse le plus de faire?
Bon, écoute, d'accompagner les coachs.
C'est-à-dire que maintenant, vous avez toute une équipe de coachs que tu formes, c'est ça?
Alors voilà, donc je les accueille effectivement. On les sélectionne avec Solène dans mon équipe. Et puis ensuite, on leur fait découvrir le programme. Et puis pendant le temps de leurs activités avec nous, on les accompagne aussi de façon tous les mois pour voir un petit peu comment ça évolue, comment
ils vont. Donc tu finis par finalement enseigner à nouveau.
Exactement, t'as raison, j'ai bouclé la boucle. Tout à fait. Oui, je transmets. Et c'est un vrai bonheur de transmettre aussi, tu vois, à la fois cette connaissance. Je pense que ça a beaucoup aidé... Même Pas Cap en général, d'avoir ce regard sur le fonctionnement d'un secteur qui, comme tous, est un peu particulier, un peu spécifique avec ses règles, sur la formation professionnelle continue, les exigences aussi du bilan qui sont quand même réglementaires.
Oui, c'est encadré quoi.
Exactement, donc ça a permis dès le départ de poser en fait des fondations qui étaient respectueuses justement de cette réglementation.
Il faut être agréé, c'est ça, etc.
Absolument. Ouais. Donc, à la fois pour rejoindre la certification Calliope, mais également pour respecter, déontologiquement, éthiquement, le fonctionnement d'un bilan de compétences.
OK. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne l'ont pas les différentes étapes qu'il peut y avoir très concrètes tout au long du bilan de compétences? Parce que je crois que pour plein de gens, quand on ne l'a pas fait, moi, je n'ai jamais fait de bilan de compétences. Je connais des gens qui en ont fait, qui m'ont parlé un petit peu, qui m'ont d'ailleurs sollicité dans le process. Mais est-ce que tu pourrais expliquer les grandes étapes par lesquelles on passe quand on fait un bilan de compétences?
Bien sûr. Alors, première étape d'un bilan, c'est vraiment de réfléchir sur le projet de vie, c'est-à-dire quel est l'objectif du bilan, qu'est-ce qu'on vient chercher. En général, ça démarre par un sentiment d'insatisfaction ou d'inconfort. Donc, qu'est-ce qui ferait que la vie serait plus confortable et qu'est-ce qui ferait que ce bilan soit un succès. Donc, on travaille sur une première séance sur les objectifs. Ensuite, on a un temps qui est la phase d'investigation, où on va, dans un premier temps, investiguer et explorer la personnalité. Ensuite, il y a une étape d'exploration des compétences. Et enfin, une phase de construction du projet, où on va explorer, tâtonner, rencontrer, tester, pourquoi pas expérimenter sur le terrain de nouvelles activités ou la même activité, mais dans un autre environnement ou avec d'autres gens. Et enfin, une phase de décision, de choix et de rédaction d'un plan d'action pour avoir sa to-do list et savoir comment ce projet va pouvoir vivre.
Donc, ça commence par les idées et ça finit vraiment dans le concret, dans faut mettre en place, quoi.
Exactement.
Je me demandais, est-ce que tu as quelques exemples, un exemple ou deux, tu vois, de bilans de compétences qui t'ont marqué ou de parcours qui ont pu te marquer chez Mumpacap, où tu t'es dit, OK, on a bien fait notre boulot, quoi.
Ouais, j'ai la chance, en fait, de voir et de lire tous les jours. Je crois qu'encore une fois, Yves le propose à beaucoup d'entre nous de lire les retours des questionnaires de satisfaction de l'ensemble des pépites qui font un bilan chez Mumpacap. Et franchement, c'est un boost quotidien, tellement on lit de gens qui peuvent témoigner sur ça a changé ma vie, au-delà de changer mon boulot.
Ouais.
Ça m'a permis de me recentrer, de me réaligner.
Étonnamment, quand t'es bien dans ton boulot, ça impacte sur ta vie. Hein.
Clairement.
C'est une grosse partie de notre existence.
Carrément, c'est un temps qui est important dans nos journées. Donc, si déjà ça va bien là, globalement, on a fait une grosse partie du boulot. Hein. Donc, après avoir un exemple comme ça en tête, mais j'ai tellement de sourires en tête et tellement d'yeux qui brillent d'hommes ou de femmes qui tout d'un coup se sont dit ah mais oui voilà.
Moi, c'est incroyable.
Je sais que c'est gagné quand en fait le projet qu'ils identifient devient comme une évidence.
Oui.
En fait
s'allume. Ouais, il y avait un vrai truc de là où la lumière s'allume, quoi.
C'est ça. Et les yeux brillent. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui commence à pétiller. Finalement, le mouvement se met en place de façon tout à fait naturelle. Il y a comme une synchronicité qui s'installe et les planètes s'alignent, quoi. Donc, là, on sait qu'on est au bon endroit, sur le bon projet, que c'est la bonne idée.
Ok. Créer, diriger et faire avancer cette boîte avec ses enfants, comment quoi ça ressemble?
Ah, écoute, c'est
je me projette un peu, tu vois, moi j'ai deux filles, ouais. Je me dis putain, mais waouh, qu'est-ce que ça doit être, quoi.
Écoute, c'est incroyable. Vraiment, c'est comme du bonheur. Franchement, c'est une aventure alors qui nous a fait peur à tous les trois, puis également à tout le reste de la famille.
Oui, parce que vous êtes 3/6 finalement.
C'est exactement ça.
Dans le même cap, donc il y a les tout trois autres qui sont à côté.
Alors les trois autres, je peux te dire que ça a été pour eux et c'est toujours pour eux une angoisse. De se dire, oh là là, si ces trois-là, ils s'engueulent, l'ambiance familiale, elle va quand même être beaucoup moins marrante. Alors écoute, assez naturellement, il y a un truc qui s'est installé, établi, et qui fait que... Alors, on a déjà la chance chez Mumpacap de tous travailler de là où on est. Donc déjà, on n'est pas tous les trois dans le même bureau.
Donc c'est une boîte 100% télétravail, finalement.
Absolument. Donc, c'est
très adapté au Covid.
Absolument, c'est full remote pour tout le monde, et chacun choisit l'endroit d'où il veut bosser. Donc déjà, Sixtine, elle vit à Lille et elle travaille à Lille. Yves, il est sur Amiens et moi, je vais être à Chantilly. Donc, on n'est déjà pas physiquement tous les trois.
Pas l'un sur l'autre.
Exactement. Et ça, je pense que ça compte aussi dans le fait que ce soit agréable à vivre. On a nos vies respectives, à la fois personnelles et professionnelles, même si on a des interactions presque quotidiennes. Donc ça, c'est important. Et puis, je te dis, l'équilibre s'est installé seul, naturellement tout seul. Et quand on est dans des lieux ou dans des moments de réunion ou de rassemblement en famille, on n'aborde jamais Mumpacap. On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on peut passer une semaine de vacances ensemble sans parler. Alors, quelquefois, nos collaborateurs sont un peu déçus parce qu'ils se disent, tiens, ils vont se voir, il y a des dossiers qui vont avancer, il y a des décisions qui vont se prendre. Alors, pas du tout.
C'est une règle que vous avez établie entre vous
pas
ou
du tout.
Ça s'est fait naturellement?
Ça s'est fait tout seul. Okay. C'est-à-dire que je pense que c'est la peur des trois autres de nous voir travailler ensemble qui a fait qu'on s'est dit, OK, on ne va pas les saouler avec nos histoires d'entreprise. Et du coup, on n'en parle pas. Voilà. Et quand on est chez Mumpacap, c'est rare que, qu'on parle de nos réunions de famille ou on partage nos vies et on évoque, comme dans toute entreprise. Mais oui, je pense que c'est surtout dans la sphère familiale que finalement
Et vous en avez parlé ensemble, je veux dire à 6, il y a eu des discussions de voilà, nous, ce qui nous fait flipper.
Mmh. Oui. Y en a qui ont exprimé leur inquiétude. Ouais. De nous voir nous embarquer et de dire bon, est-ce que vous avez bien conscience que si jamais vous vous engueulez, nous ça va nous changer notre vie et on n'y tient pas quoi.
Mais j'ai pas l'impression que ce soit un peu à l'ordre du jour de s'engueuler.
Non, alors écoute, ça nous arrive de pas être d'accord.
Oui.
Ça se règle comme ça a toujours été dans la famille, c'est-à-dire que chacun expose son point de vue, sa différence, ses choix. Et puis ensuite, en général, on arrive à trouver une option qui soit respectueuse de chacun. Mmh. C'est ça qui compte.
Comment tu arrives à trouver un équilibre, toi ? Parce que donc, Yves est le dirigeant de l'entreprise.
Ouais.
Et toi, t'es la mama, quoi.
Tu vois,
ça doit pas être simple. Hein ?
Alors oui, ça a été... Alors là, maintenant, ils m'ont surnommé la queen. Mais bon, non, ma place, elle est très claire.
Il y a une autorité naturelle, tu vois.
Oui.
Et aujourd'hui, ils sont adultes, donc j'entends bien que...
Oui, mais les choses sont encore une fois très claires, très simples. Mmh. C'est Yves le boss, et c'est lui qui, en dernier recours, a le pouvoir de décider. Okay. Pour moi, c'est OK, ça, c'est très clair.
Et quand vous n'êtes pas d'accord, Yves, il est là, bah, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est comme ça.
Exactement. OK. Ouais. Non, Yves, il est capable de trancher. Et souvent, finalement, je trouve qu'il a eu raison. Donc, voilà. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui est assez sain, c'est qu'il a confié à chacun d'entre nous, que ce soit à Sixtine sur l'espace communication, c'est son domaine et c'est elle qui le gère et qui l'organise. Moi, j'ai vraiment, ma mission auprès des coachs, pour les accompagner, pour les développer l'équipe. Éventuellement, je jette un petit coup d'œil sur les évolutions au programme, puisque j'ai créé la version 1. Alors, du coup, j'aime bien savoir ce qu'on va faire de mieux demain, comment on va l'améliorer. Mais voilà, c'est mes deux domaines d'intervention et d'expertise. Et puis après, tout le reste, c'est Yves qui le pilote et qui en décide.
Ça a l'air de t'aller.
Et ça me va parfait. Ça me va parfait.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ?
Écoute, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Et puis, je crois que c'est cette aventure d'entreprise associée à une aventure avec ses enfants. Je pense que c'est je crois que c'est une très grande fierté pour moi. Et c'est la meilleure illustration aussi de la simplicité et de la manière dont dans l'éducation que tu peux donner à des enfants, dans les valeurs que tu leur as transmises, de voir comment justement ces valeurs-là, elles vivent aujourd'hui au sein d'une entreprise et qu'elles rayonnent, semble-t-il. Ce que souvent on peut nous dire.
Moi, je peux te le dire. Hein.
De même, PACAP, c'est que ce que les gens y trouvent, c'est une ambiance familiale qui a l'air de leur plaire.
Et c'est familial au sens. Parce que parfois, il peut y avoir derrière l'idée de familial un truc un peu toxique, tu vois, où t'es obligé, il y a une forme de loyauté, il y a un machin, enfin, il y a des trucs un peu merdeux. Bon, voilà, des liens qui peuvent être compliqués, familiaux, quoi. Tu vois, on choisit pas sa famille finalement.
Carrément.
Mais j'ai l'impression que de ce qui se passe de chez vous, là, de l'extérieur en tout cas, il y a un truc très sain de venir se dire les choses en tout cas.
Alors, se dire les choses, ça c'est sûr, avec certainement à la fois du respect, de la bienveillance. Je pense que ça fait partie des choses importantes. Maintenant, j'ai souvent tendance à dire à tous ceux qui valorisent l'esprit familial de l'entreprise qu'il y a les bons et les mauvais côtés de la famille. Et que, voilà, tous les côtés y sont quand même. Hein. Donc, voilà, ça fait partie aussi, effectivement.
Oui, parce que je veux dire, pour des salariés extérieurs, rentrer chez Mumpacap, ça veut aussi dire rentrer dans une boîte, finalement, qui est dirigée
Absolument.
Par une famille, quoi.
Oui, tout à fait. Puis avec, des modes de fonctionnement, des valeurs auxquelles on adhère ou plus ou moins. Et donc, qui sont plus ou moins proches de ce qu'on a envie de vivre dans sa vie professionnelle. Donc, oui, c'est... Écoute, pour l'instant, on a une chance, c'est qu'on va être bientôt 100. Ça donne toujours à Yves un peu le vertige, mais c'est quand même une réalité. Et du coup, et franchement, l'ambiance, il fait bon y vivre. Donc, c'est également une fierté au-delà de la réussite de l'entreprise et de son succès, c'est une chouette boîte.
T'as l'air d'en être fière. Hein.
Très.
Vous voyez pas là, mais Aliette, elle a les yeux qui pétillent là. Comme pour les gens que tu coaches.
Ouais, c'est clair, c'est clair.
Merci beaucoup, Aliette. Je vais mettre tous les liens pour les gens pour qui souhaitent découvrir MumpaCap, etc. Franchement, j'adore travailler avec vous. J'ai adoré travailler avec vous. On va faire un podcast ensemble en plus, donc qui n'a strictement rien à voir avec mes podcasts. Je suis très heureux, très fier vraiment de, bah, en plus de faire ta connaissance, parce que jusque-là, j'avais rencontré que tes enfants. Merci beaucoup, en tout cas, pour le soutien aussi, pour le support à mes podcasts. Ça me touche vraiment beaucoup, quoi.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
De rien.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.